Gall, ça veut dire dévoiler. Donc, il y a deux types de dévoilement. Un qui débouche sur la galoute, l'exil, et un qui débouche sur la geoula, donc sur la libération. Bien sûr, on ne peut pas dire tous les deux la même chose, mais c'est intéressant. Ils aient, le Maharal qui fait remarquer, cette même racine, en fait. En fait, quand on décrit la situation du clan Israël en Galoute, on décrit souvent la situation de Yerushalayim, Jérusalem, et on décrit la situation de la manière suivante. On prend ce qu'était Yerushalayim, sa beauté, etc., et on met en face de cela la situation où elle est complètement désolée, etc., esselée, etc., tout ce qu'on connaît comme expression concernant Yerushalayim après la destruction du Beth Amikdash. En fait, il y a aussi un autre point, si vous voulez, qu'il y a en commun entre la Geoula et le Galout, c'est que le Galout de Mitzrayim, il commence dans sa phase douloureuse, si vous voulez, il commence avec Vayakom Melech Hadash. Il s'est levé un nouveau roi en Égypte. Et puis la Geoula elle-même, elle commence elle aussi par un verset qui est le fameux verset de Achodesh Hazelachem, ce mois, le mois de Nissan, le mois de Pessah, ce sera désormais pour vous le premier des mois dans le cycle de tous les mois. Donc ce sera une espèce de nouveau Rosh Hashanah, mais pas un Rosh Hashanah, mais un Rosh Hashanah vu sous l'angle de l'ensemble du cycle des mois. Bon, le mot Chodesh, il a l'avantage par rapport au mot Shana, c'est que Chodesh fait référence à un renouveau, alors que Shana fait référence à une répétition, comme on retrouve dans Shnaim, dans deux. Shana, ça veut dire répéter. Donc, les années sont vues comme des répétitions. Et ce qui est important, c'est que nous avons une année qui est caractérisée, si vous voulez, par le chidouche, par le renouveau, puisqu'on la présente comme commençant avec un nouveau mois, un des mois. On commence ailleurs, en fait, on commence au printemps au lieu de commencer en automne, mais de cela on a déjà parlé. Donc ce qui est important, c'est ce mot Chadash, Yakom Melech Chadash, et puis Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Donc d'un côté, comme on a vu dans Galout et Geoula, d'accord, la Galout a donc commencé avec une forme de renouvellement, Melech Chadash. Une forme de renouvellement, il s'est donc passé quelque chose de nouveau, mais pour nous, la notion de le nouveau, c'est un véritablement nouveau. Ça veut dire, en l'occurrence, ce roi-là, c'est un roi qui est vraiment nouveau dans la chaîne des rois, parce que c'est un roi qui n'a pas connu Yosef. Pas connu Yosef, ou il veut pas le connaître, il veut pas s'en souvenir. C'est un roi qui n'est pas d'accord, si vous voulez, de donner un quelconque privilège à la famille étendue aux descendants de Yosef, qui a quand même sauvé l'Égypte. Donc il y a ici une coupure. Quelqu'un qui décide que il ne veut plus rien avoir à faire avec l'Égypte dans la version Yosef. Ça, c'est la nouveauté. Et au lieu d'être bienveillant, il va être malveillant. Quelque part, pour les descendants de Yosef. Et donc, la sortie d'Égypte, elle va représenter une nouvelle occurrence, un nouvel usage de la notion de Hadash. Au lieu que le Hadash soit une ouverture, un commencement pour le Galout, ici ça va être un commencement pour la libération. On sait bien que dans le monde, et en particulier pour le clan Israël, il y a eu toutes sortes de commencements, de renouvellement, de renouveau en réalité. Entre autres, il y a à peu près 250 ans, il y a eu la Scala, qui prétendait renouveler les choses, et ça a amené ce que ça a amené, évidemment, ce renouvellement, ce changement. C'est toujours cette idée qui était répandue un peu partout, de fabriquer un homme nouveau, dans la version marxiste, enfin communiste de l'homme nouveau, que la version de l'homme nouveau dans la version sioniste. Il y a toujours des velléités de fabriquer un homme nouveau, un homme qui n'aurait rien à voir avec le passé, rien à voir, quelque chose de nouveau, comme si on avait affaire à quelqu'un qui élimine toute trace du passé, comme si c'était fait lui-même, et il arrive ici dans le monde comme quelque chose de complètement nouveau. Les Chidushim, donc, il y en a eu beaucoup. Et ils viennent toujours pour, a priori, résoudre des problèmes. On résout le problème en changeant la face du clan Israël, en vérité. On sait bien ce que ça donne, malheureusement. On aurait dû apprendre le Galout Mitzrayim. On aurait dû apprendre que la Geoula, elle ne peut être, le vrai changement ne peut être qu'un changement du type à Chodesh Hazeh Lachem. Tout autre chidouche, tout autre renouvellement entraîne un désastre pour le clan Israël. Nous voyons effectivement que Yaakov Melech Chadash, a entraîné, c'est le début du Galout en fait, et que Chodesh Hazeh Lachem, c'est le commencement de la Geoula. On voit bien que à ce sujet-là, dans ce sujet-là, elles vont ensemble en quelque sorte, la Galout et la Geoula. On va essayer de voir cette chose-là d'un peu plus près. La Gemara dans le Kiddushin, aussi dans d'autres endroits, la Flamed, la Gemara dans le Kiddushin, elle dit Yitzro shel Adam mitchadesh alav bechol yom. Le Yetzer Hara de l'homme, il se renouvelle chaque jour contre l'homme. Il malé à Kadosh Baruch Hu Ozro et no yachol. Le Yetzer Hara qui se renouvelle, il est tellement puissant dans ce renouveau que si Hachem ne nous donnait pas un coup de main, on n'y arriverait pas. C'est-à-dire l'homme ne peut pas résister à ce renouveau permanent, renouvellement permanent de la stratégie du Yetzer Hara. Il a besoin impérativement de l'aide d'Hachem. sinon il ne peut pas y arriver. Regardons un peu ce que dit cette phrase. Elle dit que le Yetzer Hara ou Mitgaber. Le Mitgaber, c'est-à-dire qu'il est plus gibor, il est plus fort que l'homme. Mitgaber. Qu'est-ce qui fait qu'il est capable d'être plus fort? Alors, la vérité, c'est que c'est justement par le fait, comme le dit la phrase, effectivement, que c'est sa puissance de renouvellement qui est plus forte que nous. C'est son koach hachidush, si vous voulez, la capacité de renouvellement. On nous dit, il se renouvelle chaque jour. Contre quelque chose qui se renouvelle chaque jour, on a besoin de l'aide du ciel. Dans la Gemara, dans Kiddushin, toujours, il y a un autre texte qui dit, c'est Hachem qui parle, et il dit, Barati Yetzerara. Hachem dit, j'ai créé le Yetzerara. Et j'ai créé pour ce Yetzerara, ou contre lui, si vous voulez, on ne peut pas dire contre, Ratilo, je lui ai créé Torah Tavlin. Je lui ai créé un condiment, une épice. Cette épice, elle s'appelle Torah. Donc, le verset ici présente, la phrase ici, elle présente la Torah comme un condiment qui va nous permettre, a priori les condiments c'est fait pour rendre la chose consommable ou mieux consommable. Donc il ne s'agit pas d'éradiquer le Yetzer Hara, on ne peut pas l'éradiquer. Parce qu'il y a dans le Yetzer Hara des éléments qui sont absolument nécessaires au fonctionnement du monde. Mais il s'agit de le rendre comestible si vous voulez. Il s'agit de le rendre utilisable, il s'agit de pouvoir en faire quelque chose de positif. Et la Torah, la Gemara ici, elle rapporte les paroles d'Hachem, qui dit, il y a une épice, il y a un moyen de le rendre acceptable, utile, même éventuellement positif, mais il n'en a qu'un seul. Et ce seul moyen-là, c'est la Torah. Torah, c'est le seul moyen de traiter le Yetzer Hara. Nous vivons tous avec cette réalité. Un Yetzer Hara qui se renouvelle de façon permanente. Et il se renouvelle, je veux dire, c'est un jeunesse, mais il présente à chaque fois quelque chose d'autre qu'il nous présente comme étant une nouveauté. Or, si on garde la chose avec notre intelligence, si on va y regarder de plus près, si vous voulez, alors on verra que ce qu'il nous présente comme étant une nouveauté n'en est pas une du tout. Il n'y a absolument aucun chidouche dans ce que les Sahara proposent. Aucun chidouche. Donc il n'a vraiment rien à vendre. Des choses qui sont archi connues. On sait pertinemment qu'elles sont vaines. Sa force, c'est de nous le présenter comme quelque chose de nouveau. disant, ça tu l'as pas encore goûté. Ça tu verras, ça c'est extraordinaire. Ça vaut la peine. Mais en réalité, il n'y a aucune différence entre ce qu'il propose et des milliers de choses qu'il nous a déjà proposées. En vérité, on devrait pouvoir répondre. On connaît, on l'a déjà vu, on l'a déjà goûté. Il n'y en a aucun chidouche. Mais sa force, c'est de le présenter, d'arriver à nous embobiner et nous présenter la chose comme si c'était vraiment quelque chose de nouveau. Il semble que si ce n'était cette force qu'il a de présenter les choses comme des nouveautés, il n'aurait aucun pouvoir de séduction. Et pour quelqu'un qui a bien réfléchi, qui voit qu'il n'y a vraiment aucun chidouche. Alors, normalement, sur une telle personne, il n'a aucune prise. On sait très bien où il veut nous amener. On le sait. Il semble que quand Hachem dit « Barati Yetzara, Barati lo Torah Tablim », ça veut dire que la Torah tout entière, elle est vraiment chidouche. Et pour lutter contre un faux chidouche, il faut mettre en face un vrai chidouche. Celui qui a goûté à la vraie Torah, vraiment, il a une façon, j'en ai vraiment imprégné, donc il a une façon différente de regarder les choses. Et il sait que il y a là quelque chose de réellement nouveau. Donc ça veut dire, Barati Yetzara, Barati Lotora Tablin, ça veut dire être capable de saisir les choses dans leur vérité pour voir vraiment où est la nouveauté. Où elle est là, là où elle n'est pas. Bon, qu'est-ce qui est la vraie nouveauté? Et savoir que tout le reste n'est pas nouveau. C'est ça que les Chachamim nous dévoilent ici. Ce n'est que par cette force de présenter les choses comme si elles étaient des nouveautés. Le Yetzer Hara a un pouvoir sur nous. Dès qu'on a vu que c'était pas nouveau, ça enlevait tout le goût de ce qu'il nous propose. Il a rien d'autre à vendre. Mais ça, il le vend bien.
De nouveautés du Yetzer Hara vis-à-vis d'Adam Harishon, en quoi c'était complètement nouveau ce qu'il nous proposait?
Pour Adam Harishon, effectivement, pour lui, il y avait quelque chose, c'est pour ça qu'on lui a pas, ce qu'on lui a reproché à Adam Harishon, c'est d'ivrei Arav, d'ivrei Atamid, d'ivrei Mishomim. C'est-à-dire d'avoir entendu ce que dit le maître et d'avoir entendu ce que dit l'élève, qu'est-ce qu'il faut entendre? Il faut entendre, écouter ce que dit le maître. Lui, on lui a pas, ou Adam Harishon, c'est même pas quelque chose de nouveau par rapport à de l'ancien, il n'y avait pas d'ancien et de nouveau. Vous voyez, mais peut-être que c'est aussi, peut-être le yesod, de la seule chose qui est vraie, c'est ce que le maître dit. L'élève, il ne peut dire que quelque chose qui n'est pas la nouveauté. s'il est vraiment l'élève. Il va répéter ce que dit le maître. Après, on verra qu'il y a un travail de l'élève à faire à partir de ce que, une fois qu'il a bien intégré ce que le maître lui a enseigné, alors il va faire un travail pour développer cela, pour un travail de chidouche. Mais à ce moment-là, c'est très difficile, le chidouche. Le Rav Chaim de Volozhin, il disait qu'il donnait tout son limoud pour un chidouche. Parce que si lui, il n'a pas de chidouche, avec tout ce qu'on sait de lui, c'est... Bon, on n'a aucune idée de ce que c'est vraiment qu'un chidouche. C'est quelque chose qui est totalement révolutionnaire, quelque qui bouleverse complètement le regard qu'on avait jusque-là sur les choses. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est que quelque chose de radicalement nouveau, ouvrez les yeux, on est en train de le vivre. D'accord? On est en train de vivre quelque chose. On a tout ce que nous disent les médecins, les spécialistes, enfin, les gens qui réfléchissent sur la question, on n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais existé. On n'a jamais vu une chose pareille. Ça, c'est véritablement quelque chose qui nous dépasse complètement. Pourquoi? Parce que pour ne pas être dépassé, il faut pouvoir ramener l'ancien problème à un problème, enfin le nouveau problème à un problème qu'on a déjà résolu. Savoir, oui, ça on sait, on connaît. Il y a d'autres virus qui arrivent, on les connaît, ils sont de ce type-là, alors voilà, on sait comment on les traite. Celui-là, on ne sait pas. Tous les jours, ils apprennent de nouvelles choses. Donc, quelque chose, ou mitradesh becholion. Tous les jours, il y a une nouvelle chose. C'est un exemple extraordinaire de cette situation-là. Mais on va y revenir sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que, en fait, on est en train de parler de la sortie d'Égypte, on est en train de parler du galout de Mitzrayim. Finalement, c'est de ça qu'on veut parler. Alors, pour l'instant, on est en train de parler du Yetzirah et de Yaakov Melech Hadash, de ce qu'était le galout, justement. En fait, une fois qu'on a enlevé la notion de chidouche, ce que je disais, une fois qu'on a enlevé la notion de chidouche dans ce que propose le Yetzirah, une fois qu'on a montré que ça n'avait rien de nouveau, il n'a aucun attrait par soi-même. Tout l'attrait, c'est nouveau. Mais ça ne l'est pas. C'est pas nouveau. Le chidouche, il est en réalité dans quelque chose d'absolument fondamental qui est la vie. Chaim, la vie, ça veut dire quelque chose de nouveau. Chaim, il faut l'entendre comme dans l'expression, enfin dans le nom de Maim Chaim. On parle de l'eau vive, une eau vive, une source d'eau vive. C'est une source qui effectivement coule, semble couler de façon constante. Mais à chaque instant, si c'est de l'eau vive, justement, à chaque instant, ce qui est là devant nous ne ressemble pas à ce qui était là devant nous dans l'instant précédent. C'est-à-dire, au niveau de l'instant, chaque instant est une nouveauté par rapport à l'instant précédent. En fait, nous, on croit qu'il y a continuité. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une espèce de continuité dans la vie. Mais en réalité, la Torah ne nous dit pas, la Torah nous dit autre chose. La Torah dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh, l'homme, ou bien à chaque instant, Maaseh Bereshit. Donc si Hachem renouvelle en permanence l'œuvre de Bereshit, ça veut dire que la vie, qui nous apparaît comme un flux constant, est en réalité une suite de moments Donc on est dans le discontinu, si vous voulez, bien que ça se présente comme le continu. Mais si vous voulez une image, regardez un film. Le film, c'est bien des images séparées les unes des autres. Et si vous les faites défiler à une certaine vitesse, vous avez l'impression que c'est continu. Vous savez bien que c'est pas continu. Ce sont des images placées l'une à côté de l'autre. Simplement, elles défilent avec une certaine vitesse qui est telle que, pour notre œil, ça se présente comme si c'était continu. En vérité, on pourrait presque dire, on ne peut pas entrer là-dedans, comme si pour nous, le temps, il était aussi quantique. C'est aussi des espèces de quantas de temps. Il n'y a pas de continuité. C'est des petits morceaux de temps, si vous préférez. Après, je vous renouvelle, c'est chaque fois une nouvelle vie. Mais c'est vrai que la vie, nous la percevons comme quelque chose de continu. D'une certaine manière, si on ne vit maintenant que parce qu'on a vécu avant ou auparavant, c'est pas vraiment la vie, en fait. Nous allons discuter de cette question-là. Ils ont discuté de la queue du lézard, etc. Cette vie-là, c'est pas vraiment la vie. Parce que le sens pour vie, en fait, c'est quelque chose qui arrive maintenant. On vit maintenant. Et pas comme la suite de ce de la vie d'hier. La vie est quelque chose qui, à chaque clin d'œil, en quelque sorte, se renouvelle. Donc la vie, c'est vraiment Khidush. Sur cette vie-là, la mort n'a aucune prise. La mort n'a aucune prise sur une vie comme celle-ci. L'idée de notion de mort, telle que nous la connaissons, c'est parce que nous pensons que la vie, c'est le lien qui y a entre la neshama et le corps. C'est-à-dire qu'on met le corps aussi dans la vie. Et quand ce lien-là est rompu, alors on appelle ça la mort. Mais la vie, elle ne meurt pas. La vie ne meurt pas.
La vie ne meurt pas, mais l'individu, oui, non?
L'individu, il va mourir. Justement, ça dépend de ce qu'on appelle mourir. Justement, par exemple, quand on va dire que Yaakov Avinu l'omet, évidemment, comme Chazal le disent, bien sûr, Yaakov Avinu, ça veut dire que celui qui n'est pas mort, on l'a embaumé, on l'a transporté, etc. On a transporté son cercueil. Mais néanmoins, on va dire que Yaakov Avinu l'omet. Parce que cette vie à laquelle il a accédé, cette vie-là ne s'interrompt jamais. Elle ne disparaît pas, cette vie. Je ne vois plus les gens, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà.
Brave. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire quand vous dites cette vie, elle ne disparaît pas, vous? Si on voulait mettre d'autres mots, j'ai l'impression, je l'entends, mais j'ai l'impression, enfin, je suis sûr même que j'arrive pas bien à percevoir cette notion presque d'éternité.
Oui.
Est-ce que c'est lié au fait qu'il a existé et c'est pas simplement, j'imagine, que son héritage ou ce qu'il a produit ou sa vie qui fait que nous on retravaille là-dessus et ce qui fait qu'il lui donne une éternité. Est-ce que c'est dans ce sens-là ou est-ce que vous parlez
de ce sens-là est une conséquence de
oui.
Du fait que effectivement il a produit c'est un produit de la vie, c'est un produit vraiment vivant. Mais justement dire que la Torah est une Torah de vie, une Torah vivante, ça implique justement que la Torah soit une Torah qui soit renouvelée en permanence, et une Torah, souvent j'ai l'habitude de dire que la Torah, la vraie Torah, c'est quelque chose qui doit nous bouleverser, et cette idée-là, si elle ne nous bouleverse pas, ça veut dire que si elle s'inscrit dans la suite de ce que je sais déjà, la Torah n'est pas vivant. Elle ne vit pas puisqu'elle est, on l'aperçoit comme quelque chose qui n'est que la suite de quelque chose qui a déjà existé. C'est pas vraiment la vie. Il y a plein de gens qui vivent comme ça leur vie. Ils vivent aujourd'hui parce que c'est ce qu'on appelle dire que les gens suivent effectivement, ils suivent ce que leurs ancêtres faisaient. Par exemple, il y a une halakha qui dit que normalement, on n'a pas le droit de faire du business avec un idolâtre si il est, le business qu'on fait avec lui va l'amener à ou bien remercier, s'il a fait une bonne affaire, remercier son idole, parce que c'est son idole qui lui a donné, ou alors il va demander à son idole de l'aider, etc. Et donc, normalement, la Mishnah, elle dit, 3 jours avant les fêtes des idolâtres, on peut pas faire de business avec eux. Alors, le problème, comme on me demande d'aller au spot sur la première page d'Avodah Zara, comment on fait avec les goïms? Bon, 3 jours avant, 3 jours après, on peut faire du business le mercredi, quoi, c'est ça. Un jour, on peut faire du business, c'est tout. Mais Rabbeinu Tam, il répond, pourquoi est-ce que nous, on fait quand même du business tous les jours avec eux? Parce que, lui, il dit, il n'y croit pas. C'est Mina Gavotem Biedem. Ils font les choses parce que leurs ancêtres les faisaient. Ils n'y croient pas. Alors, le problème, fait remarquer le Rav Haïm, c'est que nous, on doit faire aussi très attention de ne pas pratiquer la Torah parce que nos ancêtres la pratiquaient. Parce que dans ce cas-là, ça vaut rien. Si vous dites que c'est pas de la Avodah Zara parce qu'ils ne font que singer ce que faisaient leurs ancêtres, eh bien, c'est valable aussi dans le domaine de la Torah. Donc quelqu'un qui, dans le domaine de la Torah, ne ferait que singer, c'est pas de la Torah. C'est rien. Il est pas vivant non plus. C'est pas une vie. Si vous voulez, quand je dis que la vie, elle ne disparaît pas, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne peut pas disparaître parce qu'à chaque instant, elle est coupée de ce qu'il y avait avant. C'est un instant. Mais cet instant-là, la mort, c'est plutôt quelque chose qui, justement, vient rompre quelque chose. Mais non, il y a un renouvellement permanent. Donc, cette vie-là, donnée par Hachem, cette vie-là, elle ne peut pas s'arrêter. Elle n'arrête jamais, en vérité. Un pasouk, le Teilim, on dit dans le Hallel, un pasouk, on dit, lo amut ki echye. Je ne mourrai pas, lo amut, je ne mourrai pas, et echye, je vivrai. Et entre les deux, il y a le mot ki. Le problème, c'est que le mot ki, on sait, Rashi, par exemple, que le mot ki, il peut avoir 4 sens. Et un des sens semble celui qu'on aurait tendance à utiliser ici, on va dire, regardez le verset comme si le verset disait « Je ne mourrai pas, mais bien au contraire, je vivrai. » Lo amut ki erhie. Ça veut dire je ne mourrai pas, mais au contraire, je vivrai. C'est-à-dire le mot qui, comme si il était marqué dans le texte Ella. Lo amut, Ella erhie. Bien au contraire. Oh, ça, ça dit pas grand-chose. Je ne mourrai pas, au contraire, je vivrai, bon. Ça dit rien. Donc, on est obligé de dire que le mot qui, ici, pour donner un sens à cette phrase, pour que David Ameller dise quelque chose, et pas une banalité, il faut ne pas l'utiliser dans le sens de Ella, mais au sens de Ha. C'est-à-dire, je ne mourrai pas parce que je vivrai, parce que la vie, elle ne meurt pas. Bon, c'est à chaque instant, il y a un renouvellement. La vie d'aujourd'hui, ce n'est pas la vie de l'instant précédent. La vie de cet instant-là n'est pas la vie de l'instant précédent. C'est là qu'il y a le chidouche. On peut comprendre maintenant. Yetzerara, il se renouvelle à chaque jour, dit-on. Chidouche, c'est-à-dire, toutes ces propositions, séductrices, en fait. Il essaye de leur donner un visage, de les présenter comme si elles étaient la vie, comme si elles étaient vraiment vivantes. Or, c'est un shaker. C'est un mensonge. Si on y réfléchit, c'est en vérité quelque chose qui devrait être repoussé par une intelligence minimale. On ne devrait pas se laisser avoir par des trucs aussi grossiers. Accorder le titre de vie à ce que le Yetzer Hara propose, dire que c'est la vie, ça, non, il n'y a aucun renouvellement. Donc ça ne peut pas être la vie. Le galout, exil, esclavage, c'est quelque chose qui est la négation de la vie. Le galout met l'accent sur la notion de renouvellement, mais pas au bon endroit en quelque sorte. Tout le monde comprend que la racine de la galoute, c'est pas pour dire que le galoute vient parce que ce royaume ou cet autre royaume, Rome, la Grèce, ou en bref, tous les autres qui nous ont réduits en esclavage, en galoute, le galout, c'est pas le fait que tel ou tel royaume nous a battus et nous a déplacés, etc., qui nous domine. Tout le monde comprend que c'est pas vraiment cela. Ça, le galout. La royauté en question, elle représente celui que Hazal appelle Melech Zaken Uxil. Un vieux roi imbécile. Il a effectivement, le vieux roi imbécile, c'est Yetzer Hara, bien sûr. Il a des soldats, il a des royaumes qui lui appartiennent, qui sont appelés, dans la chaîne de Chazal, sont appelés Hayalotav Shel Satan, les soldats du Satan. La vérité est que nous sommes sanctionnés, si vous voulez, dans le galout, avec le galout, parce que nous nous sommes mis sous une malchoute qui n'est pas la vraie malchoute pour nous. C'est pour ça qu'on est en galout. On est en galout parce qu'on a accepté un roi qui n'est pas adéquat pour le clan Israël. Chaque fois qu'on accepte quelque chose qui se présente comme quelque chose de nouveau, mais qui est faux, cette acceptation, c'est la racine du galout. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas à notre place. Notre vraie place, c'est pas là. C'est pas dans cette situation-là. On a passé à une autre réalité. Bien, dans ce cas-là, on va passer complètement à une autre réalité physique. On ne sait pas pour rien que dans les galouillotes du clan Israël, il y a aussi un galout qui s'appelle galout Yavan. C'est un galout dans lequel nous sommes sur notre terre. Nous sommes en Eretz Israël. Nous avons le Beth Amikdash. On appelle ça un galout. Bien sûr. Parce qu'on a accepté une autre royauté que la royauté d'Hachem. On a accepté une autre royauté. On va se plier à cette autre royauté. On va essayer de trouver grâce à ses yeux. On va copier ses façons de faire de cette royauté. On ramène toujours le fameux Rashi du début de Réchit, du début de la Torah, qui ramène l'enseignement. Il dit « Loaya tsarich le'atchil et la Torah ela me'achodesh hazeh lachem ». Il dit « La Torah, elle aurait dû commencer au chapitre 12, je crois, de l'Exode, justement, par la phrase « Achodesh hazeh lachem ». C'est la définition, c'est la première mitzvah que le clan Israël a reçue. Cette mitzvah, l'ensemble des Bnei Israël, ont reçu cette mitzvah alors qu'ils étaient encore esclaves de Paro. Ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves de Paro. Et ils reçoivent la première mitzvah. Cette première mitzvah, c'est la maîtrise du temps. Dans le calendrier, bien sûr, le calendrier. C'est-à-dire, celle qui va nous permettre de définir le calendrier, c'est-à-dire, en particulier, lorsque nous allons avoir des rendez-vous avec Hachem, les Moadim, Hachem nous dit, je vous rencontre le 15 du mois, et ça veut dire, si on regarde la chose de cette manière-là, on a l'impression que le rendez-vous, il a été donné par Akadosh Baruch Hu de façon unilatéral, c'est sans nous consulter, mais en vérité, nous sommes partie prenante. Parce que c'est vrai que ce sera le 15 du mois, mais c'est nous qui disons quand ce sera le 15 du mois. C'est nous qui définissons le début du mois. Donc en réalité, c'est extraordinaire. Nos rendez-vous avec Hachem sont des rendez-vous qui sont pris ensemble, qui sont décidés ensemble par Akadosh Baruch Hu et par l'Ebné Israël. Ce sera le 15, mais c'est nous qui allons dire quand sera le 15. Comprenez? Donc, cette mitzvah qui nous est donnée, qui va déjà gouverner les rendez-vous qu'on aura avec Hachem par la suite. Chose absolument extraordinaire. Ça va gouverner bien d'autres choses aussi. Ça va être se superposer à la réalité. On a un autre calendrier. On est dans un autre monde. Je pense qu'il y en a un autre temps. Un autre temps. Ça, l'importance. Ça veut dire, ce qui nous est donné, c'est un autre temps. Une maîtrise du temps, un autre temps. Nous ne sommes plus, depuis la sortie d'Égypte, nous ne sommes plus dans le même temps que le reste du monde. C'est ça. C'est une chose extraordinaire. On n'est plus dans le même temps. C'est ça, la Géoula. Commence ici, la Géoula. Alors on dit, la Torah aurait dû commencer à ce moment-là. Mais le temps que nous vivons, le temps qui s'est renouvelé, si vous voulez, avec la sortie d'Égypte, je veux dire qu'on est entré dans un autre type de temps. Le temps du monde, c'est un temps de durée, en fait. Et nous, au contraire, le temps, il a été en quelque sorte créé à la sortie d'Égypte. Ce temps-là s'appelle Chodesh. La notion de temps elle-même, c'est en fait, l'idée c'est le mot Zman. C'est en fait une façon de aller à la rencontre de une invitation. On vous invite à aller à la rencontre, à venir à la rencontre, on vient à votre rencontre. Notion de Zman. C'est-à-dire, il y a une tradition, par exemple, plusieurs traditions, mais il y a une tradition qui dit que le monde va durer 6000 ans. Et que, à Kadosh Baruch Hu, après ce temps-là, il va renouveler son monde. C'est-à-dire qu'en fait, notre temps, c'est un temps qui va vers le futur. Chaque instant que nous vivons est en fait une préparation pour le temps à venir. Le vrai futur, celui qui est caractérisé par Atid HaKadosh Baruch Hu Lechadesh Et Olamo, dans le futur HaKadosh Baruch Hu va renouveler son monde. Chaque instant, nous nous rapprochons de ce moment de renouvellement. En quelque sorte, on peut dire, on construit ce renouvellement. Le temps du passé, c'est le temps du monde entier. Notre temps, c'est une préparation pour le futur.
Est-ce qu'on peut comparer ça à quand sur justement le Midrash Rabbah, quand on dit que Hachem avait l'idée avant même la création, c'est-à-dire par exemple si on dit que la conception habituelle du monde, c'est de dire qu'il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'humain crée l'idée, on pourrait dire que nous, ce qui est radicalement différent, c'est que c'est l'idée qui crée l'action. C'est-à-dire c'est l'idée, c'est comme si le principe de causalité, il était pas le même, c'est-à-dire le temps n'est pas la succession de ce qui précède, mais plutôt une préparation à ce qui va venir après.
Donc c'est pas une vraie causalité.
C'est pas une vraie causalité. Voilà.
Une rupture entre
une rupture,
la préparation, ouais. Mais bon, c'est comme si nous nous préparons pour recevoir le temps qui va venir, en quelque sorte.
Voilà.
Pour avancer dans ça. Oui, je peux dire ça.
Ah, vous avez dit que dans le futur, Hachem va renouveler le temps. Mais Hachem renouvelle déjà dans le temps d'aujourd'hui.
En fait, il va renouveler son monde. Il va renouveler, non pas le temps il est renouvelé en permanence.
Voilà, c'est ça.
Il va renouveler le monde, c'est-à-dire un nouveau cycle. En fait.
D'accord.
Il y aura un nouveau cycle. D'accord. On va compléter jusqu'à 10. Bon, après ce qu'on dit, il y a 6000 ans, puis après, il va y avoir plusieurs mondes successifs. À plusieurs périodes successives, jusqu'à ce qu'il y ait un renouvellement complet au bout de 10 000 ans.
Et c'est pour ça qu'on dit que le Yetzera, excusez-moi, ce renouvellement, ce nouveau temps permanent, en fait, à nos yeux, qui est permanent, mais qui est renouvelé, nouveau plus nouveau, 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 c'est pour ça que c'est concomitant du Yetzirara, qui lui est nouveau aussi à chaque
Et justement, il n'est pas nouveau. Il essaye de se faire passer pour nouveau.
Ah. Vous avez dit qu'on se renouvelait. Vous avez dit
qu'il se renouvelle, on a l'impression, Mitradesh. Mais son chidouche, c'est un faux chidouche.
D'accord.
Il présente les choses comme si elles étaient nouvelles. Et nous présentons des choses et nous, on tombe dans le panneau, en quelque sorte. Nous, on tombe dans le panneau et au lieu de répondre, ben, je connais, c'est... Voilà, j'ai déjà expérimenté, on a déjà fait tout ça.
Ah oui.
C'est déjà passé la figure suffisamment.
Oui, d'accord.
Rav, dans ces cas-là, comment on peut expliquer que sans l'aide de Hachem, on ne pourrait pas résister au Yetzirah, puisque apparemment la corde est grosse.
C'est ça, probablement qu'il existe un attrait, étant donné que la vie c'est le renouveau, ou le renouveau c'est la vie, si vous voulez. Quand on vous présente quelque chose et on vous le présente comme étant la vie, vous marchez. Vous pouvez pas, c'est beaucoup trop attrayant. La vie est trop... C'est sûr que si on vous présente quelque chose, on vous dit, mais c'est ça qui va changer ta vie. Tu auras une autre vie, ça marche toujours comme ça. Et ça, on tombe tout le temps dans le panneau.
Enfin, pour revenir à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure sur le communisme, c'était difficile, il n'y avait pas vraiment eu de choses équivalentes, c'était difficile, on peut comprendre que c'était difficile de ne pas tomber dans le panneau, entre guillemets. Enfin, parce qu'on vous dit, que je comprends, que ça a déjà existé, mais c'est maquillé, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas d'équivalent non plus. Enfin, il me semble, peut-être je me trompe.
C'est bien présenté comme un nouveau, par rapport au panneau, etc. Un nouveau, une nouvelle dimension de l'homme.
Oui, c'est vrai.
Le temps d'avant, c'est ce que les Chachamim appellent le fameux Derech Eretz. C'est l'ordre du monde, en quelque sorte. Il y a un ordre du monde dont Chazal nous dit, dans Pirkei Avot, on nous dit que pendant 26 générations, Kadma Derech Eretz la Torah. Pendant 26 générations, c'était un temps de Derech Eretz qui a précédé la Torah. Il y a eu 10 générations d'Adam à Noach, de Noach à Abraham, il y en a 10 nouveaux, et puis ensuite, il y en a avec, à partir d'Israël jusqu'à Moshe Rabbeinu, ça fait 6 générations, donc ça fait 26. Et 26 générations, sans Torah, sans que la Torah ait été donnée, n'a pas été donnée à ce moment-là. La Torah nous dit que ce Derech Eretz, il mène à la Torah. Naturellement, l'achèvement, l'aboutissement de ce Derech Eretz devait amener à la Torah. On voit ça à peu près, par exemple, chez Yitro, qui a fait une recherche complète et qui est arrivé à la Torah. Dans le fonctionnement du monde, le monde doit arriver à la Torah. Le Bereshit, vous voyez, c'est le commencement, c'est un commencement qui doit amener à la Torah. C'est seulement un Reshit, c'est la tête, mais la suite du corps, si vous voulez. Ça mène à la Torah, en fait. Si on avait commencé la Torah par Chodesh HaZelachem, alors le cheminement qui mène à la Torah n'aurait pas existé. La Torah serait comme ça à tomber du ciel, sans aucune préparation, sans aucune nécessité non plus. Abraham Avinu, comme on sait, il est arrivé à la Torah par le Derech Eretz, par justement ce cheminement-là. À partir du monde lui-même, il a observé le monde. Ça s'est présenté comme ça. Il a regardé le monde, et comment ce monde fonctionnait, et il s'est dit, le monde doit avoir créateur. Hazal demande, et au fond, d'où est-ce qu'Abraham savait, où est-ce qu'il a trouvé la Torah, c'est-à-dire, il s'est conduit conformément à la Torah. D'où le savait-il? Alors, une des réponses, c'est que les deux reins sont devenus pour lui deux maîtres. Et c'est eux qui lui enseignaient la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu va renouveler son monde. Ça veut dire que les reins, ça fait klayot yoratsot, les klayot, les reins, donnent une etsa, donnent conseil. Quand un homme cherche, alors la capacité pouvait quelque part aller dans les reins. Il y a une autre réponse, toujours dans le Midrash. Il dit qu'Avraham Avinu, il a appris la Torah, me'atzmo, à partir de lui-même. Ça veut dire ici, me'atzmo. Ça veut dire que quand l'homme vit comme il doit vivre, vit sa vie vraiment, sa vie à lui. C'est-à-dire, il vit et il n'est pas soumis à autre chose. Il n'est pas complètement, il n'est pas en train de singer ou autre chose, ou il n'est pas obligé de se conduire d'une manière ou d'une autre. Personne ne le domine, personne ne l'oblige. C'est ça qu'on appelle. Il vit, il est vraiment vivant lui-même. Alors, nécessairement, il arrivera à la Torah. Donc, si quelqu'un est débarrassé de toute l'influence qui se mêle de sa vie, en quelque sorte, il arrive à la Torah. La plupart des gens ne vivent pas leur vie. Ils sont influencés par toutes sortes d'idées de celui qui vit vraiment comme une source vive, si vous voulez, sa vie, ça le mènera à la porte. C'est pour ça que on avait besoin de se faire de Bereshit. On avait besoin de la Genèse, depuis le tout début du Sefer Shemot. Parce que là-bas, on nous apprend comment on arrive à Chodesh Hazelachem. C'est grâce au cheminement dans le Chumash de Bereshit qu'on apprend d'Eretz Kadma la Torah, on met via la Torah. Ça nous mène à la Torah. Sur ce pasouk de Chodesh Hazelachem, Chachamim disent dans le Midrash que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu leur a dit, Ein lachem chodesh acher kadol mize. Vous n'aurez pas de mois plus grand que celui-ci. C'est pour ça qu'il est appelé Rishon. Rishon Hu le Chodesh Hashana. Il est le premier. Et Rosh Chodashim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aurait pas de mois plus grand. Ouais, c'est des mots, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est là? Un mois, la grandeur d'un mois. C'est quoi ça? Il y a une Gemara qui dit que quand les Chachamim utilisent le mot Gadol, Gadol veut dire grand, quand ils l'utilisent, ils veulent toujours dire, comme par exemple dans Bava Metzia, ils veulent dire « Lo gadol, gadol mamash »« Lo katan, katan mamash » dit la Gemara. Je ne parle pas de gadol au sens de un certain nombre de mètres ou un certain nombre de centimètres ou un katan. Enfin, le Gadol, c'est la Gemara. Si on a un Gadol, ça veut dire, vous prenez un adulte. Et cet adulte, il est, ça s'appelle Samouch al Shulchan Acherim, c'est la Gemara. Samouch al Shulchan Acherim, littéralement, ça veut dire appuyé sur la table de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quelqu'un qui est nourri, qui est pris en charge par quelqu'un d'autre. Il n'est pas esclave, mais néanmoins, il est pris en charge. Ce Gadol-là, il est katan. Le Gadol, c'est quelqu'un qui n'est pas appuyé sur la table de quelqu'un d'autre. Il est autonome. Et un katan, placé dans des situations dans lesquelles il doit se débrouiller tout seul, il est gadol. L'Agmara dit katan ve gadol, ça ne veut pas dire du tout que ça veut dire dans le monde courant. Ça dépend. Gadol c'est autonome, katan c'est non autonome. Donc dire ici que le Chodesh Hazé, il est gadol, plus grand que tous les autres mois. C'est parce que ce sont tous les autres mois qui se reposent sur lui. Et lui ne se repose sur aucun autre mois. Il est un commencement. Et toute la... On a parlé déjà longuement, on a parlé du Bechor. Toute la fratrie se repose sur lui. C'est lui le gadol abayt, c'est lui le grand. Ouais. Le chidouche de la Yetziat Mitzrayim, c'est le grand dévoilement de ce qui s'est joué à ce moment-là. Ce qu'on appelle Man Chadash, ça veut dire une nouvelle vie, un nouveau mode de vie. Le grand chidouche, c'est que ce temps-là commence avec la Chodesh Hazé Lachem, il est tout entier chidouche. Chaque instant est un nouvel instant. Chaque instant est en préparation pour l'instant à venir. La tension, elle ne vient pas du passé. Tension, elle vient de, il s'agit de se préparer pour le futur. Ça, la notion de chidouche. Le travail de la Geoula pour sortir du galout, c'est de placer le chidouche, la notion de chidouche, au bon endroit. À un autre endroit que celui où on l'a placé, arrivé en galop. Alors, ce que je vous ai dit au début, la racine gal, elle la met dans galout et dans Géoula. Le Maral dit, ce sont deux aspects dévoilement. Il y a un dévoilement qui s'appelle Gilui Panim Kehalacha et Gilui Panim Shelo Kehalacha. Il y a un dévoilement du visage, des aspects, des dévoilements, c'est-à-dire en fait une lecture de la Torah qui dévoile la Torah conformément à la Halacha et une autre qui dévoile Shelo Kehalacha. C'est ça, la lutte et Géoula. Tous les deux parlent de la même chose, un dévoilement, mais évidemment, la Géoula qui a l'Akha et la Galout chez l'Okha. Le temps, dans le temps du monde, passe d'une vanité à une autre, en quelque sorte. En fait, les choses qui sont présentées comme des nouveautés, elles étaient déjà vieilles quand nous sommes nés. Il n'y a aucune nouveauté réelle dans ces bêtises. Le vrai chidouche, il est dans le fait que nous puissions pointer, viser le grand et vrai chidouche, c'est-à-dire la vraie vie. La vie qui est la vie de Olam Haba, celle qui correspond à une source d'eau vive. C'est un point absolument fondamental. On voudrait bien qu'Hachem nous aide, qu'on arrive à se raccrocher à Chodesh HaZelachem. Et nous couper complètement de ce Melech Hadash, Yaakov Melech Hadash, qui est en fait qu'on nous assène en permanence, comme si c'était une nouveauté. La Torah, elle l'appelle Melech Zaken. C'est vieux. Parce que il se présente comme apportant des nouveautés chaque jour. Mais en vérité, complètement imbécile. Si on sort de la domination sous laquelle on s'est mis nous-mêmes, alors on sera vraiment libéré. Voilà, on va s'arrêter là.
J'ai une question, mais ça. Non, oui. Non mais ça n'a pas de rapport. Ça, enfin, pas tellement de rapport. Ça n'a pas de rapport avec le cours. Est-ce que si on n'a pas de chalot, on peut. Est-ce qu'on est assez loin de Pessah pour